Nous nous occupâmes donc à chercher quelques vaisseaux pour l'Italie. Un jour, que nous étions fort intrigués de n'en pouvoir pas trouver, un pilote de la galère La Favorite, nommé Patron Jovas, s'adressa à un de nos frères de sa galère. Ce pilote avait une tartane, espèce de barque qui navigue dans la mer Méditerranée. Ce patron dit donc à ce frère qu'il entreprendrait volontiers de nous passer de Marseille à Villefranche, qui est un port de mer du comté de Nice, appartenant au duc de Savoie, depuis roi de Sardaigne, par conséquent hors de France. Et que de là, nous pourrions aller à Genève par le Piémont. Nous goûtâmes cet avis et nous fîmes marcher avec ce patron pour le passage de nous 136 à raison de 6 livres par tête, en nous pourvoyant des vivres qui nous seraient nécessaires. Nous étions ravis d'aise d'avoir trouvé cette occasion, et le patron Jovas y trouvait son compte. Car c'était un bon frais pour un si court passage. Villefranche n'étant éloignée de Marseille que d'environ 20 ou 25 lieues. Il fut question d'aller avertir l'intendant que nous avions trouvé passage. Un des nôtres y alla avec le patron. L'intendant en fut content et dit qu'ils allaient nous faire expédier nos décharges ou passeports. Nous nous attendions d'être délivrés le lendemain, mais ces malheureux missionnaires y mirent obstacle. Ayant été informés que nous avions fait marcher pour Villefranche, ils furent trouver l'intendant et lui représentèrent que cette place était trop proche des frontières de la France, que nous y rentrerions tous et qu'il fallait qu'on nous transportât à Gênes, Livourne ou Honeil. Pure méchanceté et animosité de ces cruels missionnaires qui voulaient nous persécuter encore de loin comme ils l'avaient fait de près. Car ils savaient bien que de Villefranche, la route jusqu'à Genève était une fois plus courte que celle de Livourne ou de Gênes. Outre la grande difficulté des chemins de ces dernières places, ayant à traverser toutes les affreuses montagnes des Alpes, inaccessibles pour nous qui avions, dans notre troupe, des vieillards décrépits, des paralytiques et quantité de perclus. Et chacun sait qu'aucune sorte de voiture ne peut aller dans ces hautes montagnes, et qu'à peine les mules, animaux faits à ces routes-là, y peuvent grimper. Ces cruels savaient bien aussi qu'il était très naturel que nous ne cherchassions pas à rentrer en France si nous en étions une fois dehors, et que nous avions plutôt raison de nous en éloigner et de la fuir, étant, pour ainsi dire, encore tout ensanglanté des plaies qu'on nous y avait faites. L'intendant, aussi bien que tout le monde, voyait bien que c'était un prétexte malin des missionnaires pour nous tourmenter. Mais il faut que tout plie à leur volonté et sans réplique. L'intendant, donc, nous fit dire que l'accord que nous avions fait avec le patron Jovas ne pourrait avoir lieu à cause de la proximité de Villefranche, comme je l'ai dit plus haut. Nous voilà donc encore déroutés et aussi éloignés de notre départ qu'au premier jour. Nous annonçâmes cette fâcheuse nouvelle au patron Jovas qui ne fulmina pas peu contre ses barbets. C'est ainsi qu'il traitait les missionnaires qui sont haïs et craints de tout le monde, aussi bien des communes gens que des grands. Cependant, le patron Jovas nous consola, car soit par dépit contre les missionnaires ou par bonté pour nous, ou qu'il y vit son profit, il nous dit que notre marché avec lui subsisterait et qu'il nous porterait pour le prix convenu de 6 livres par tête, où les barbets voudraient, fussent au fond de l'archipel. Il pria en même temps que quelqu'un de nous fût avec lui chez l'intendant pour lui en faire la déclaration, ce qui fut fait. L'intendant parut encore fort content, ravi d'être débarrassé de cette affaire, car nous apprîmes qu'il avait dit au missionnaire que sa tête ne tenait qu'à un filet de n'exécuter pas les ordres si précis du roi, et que si la reine d'Angleterre s'en plaignait, il passerait mal son temps. Il nous dit donc que nous pouvions faire état d'être délivrés incessamment. Mais les barbares missionnaires, toujours acharnés à nous persécuter, et espérant encore quelques contre-ordres de la cour, inventèrent une autre ruse. Ils dirent à l'intendant que la tartane du patron Jovas était trop petite pour contenir dans son fond de cale 136 hommes, et qu'il faudrait en souffrir la plus grande partie sur le Tillac, qu'alors nous serions maîtres de cette barque, que nous jetterions dans la mer le patron et ses mariniers, que nous naviguerions où bon nous semblerait, et qu'ils ne pouvaient donner leur consentement à un péril si évident des corps et des âmes de ce patron et de ses mariniers. Qu'en un mot, il fallait que nous fussions sur des bâtiments propres à nous enfermer dans le fond de cale. Que vous dirais-je? L'intendant voyait bien l'absurdité de ce prétexte, mais il n'osait y résister. Nouveaux ordres de sa part de nous pourvoir de vaisseaux capables de nous contenir tous à fond de cale. Autre avis de ce contretemps au patron Jovas, qui n'en fut pas peu intrigué, et indigné contre les barbets, vomissant contre eux, mais en secret, mille imprécations, mais cela n'aidait de rien. Il fallait chercher un autre moyen. Ce patron, toujours porté de plus en plus à venir à bout de nous passer en Italie, protesta que, quand il devrait n'y rien gagner, et même y mettre du sien, il n'en aurait pas le démenti. Il nous laissa dans cette espérance pour aller penser à exécuter son entreprise. Le lendemain, il ne manqua pas de nous apporter la bonne nouvelle, qu'il avait agi efficacement et ne croyait pas que les barbets eussent rien de plus à y opposer. C'était qu'à ses frais et risques, il avait loué deux barques plus grandes que la sienne, lesquelles pourraient facilement contenir chacune 50 hommes dans leur fond de cale, et que la sienne en contiendrait 36. Il fallut aller encore chez l'intendant, qui pour le coup pensa tout de bon à nous délivrer incessamment. Mais pour ôter aux missionnaires tout prétexte de retardement, il envoya son secrétaire pour visiter ces trois tartanes et s'assurer si elles pourraient nous contenir dans leur fond de cale. Nous graissâmes, comme on dit, la patte à ce visiteur pour qu'il fît un rapport favorable, ce qu'il fit en effet. Et il fut conclu par l'intendant que les 36 que le patron Jobas devait prendre dans sa tartane seraient délivrés à deux jours de là, qui était le 17 juin 1713, et que les deux autres barques seraient expédiées à trois jours d'intervalle de l'une à l'autre, chacune avec les 50 hommes qui lui seraient destinés. Cela arrêté et les missionnaires étant à bout de leur stratagème, ils ne s'opposèrent plus à notre départ qu'en faisant encore une tentative pour tâcher d'intimider les patrons des barques. Ce fut de leur faire ordonner de signer une soumission, portant qu'ils s'obligeaient solidairement de ne pas débarquer à Villefranche mais à Honay, Livourne ou Gênes, sous peine de 400 livres d'amende, confiscation de leurs barques et peine arbitraire de leur corps en contrevenant, ce que les patrons signèrent de bonne grâce. Pour lors, les missionnaires abandonnèrent entièrement leur poursuite, et le père Garcin, leur supérieur, en eut tant de dépit qu'il s'absenta de Marseille pour ne pas avoir la triste et affligeante vue de notre délivrance.